Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 14 novembre 2017. Tension au Zimbabwe après les menaces du chef de l'armée contre le président Robert Mugabe. Le Conseil de sécurité de l'ONU examine demain la prolongation du mandat de la MINUSCA en Centrafrique. Séisme en Iran, l'État et la population vont au secours des sinistrés. Le ministre américain de la Justice est questionné au Congrès sur les soupçons de collusion avec Moscou. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Tension au Zimbabwe. Un convoi de chars était visible aux environs de la capitale Harare. Ce mouvement intervient au lendemain d'une mise en garde du chef de l'armée au président Robert Mugabe, Morgane Guiriec.
Des témoins ont confirmé le déplacement d'un convoi de véhicules militaires, dont des chars, aux abords de la capitale. Dans une mise en garde sans précédent, le chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, a dénoncé hier l'éviction du vice-président du pays et prévenu que l'armée pourrait intervenir si la purge ne cessait pas au sein de la ZANU-PF au pouvoir. Emmerson Mnangagwa, 75 ans, longtemps pressenti comme dauphin du président Mugabe, a été démis de ses fonctions la semaine dernière. Il a fui le pays après un bras de fer avec la première dame Grace Mugabe, 52 ans. Réagissant aux déclarations du chef de l'armée, le mouvement pour le changement démocratique, principal parti d'opposition, et la branche de la jeunesse de la ZANU-PF ont tous deux exhorté au maintien du régime civil, autrement dit contre une prise du pouvoir par l'armée.
Le Conseil norvégien des réfugiés a demandé que les civils centrafricains soient mieux protégés et que la MINUSCA soit renforcée pour éviter que le pays entier ne retombe dans la guerre civile. Le point avec Solange Niamoulissa.
Marianne Irion, directrice régionale du NRC, a déclaré qu'il y a un besoin urgent d'une protection des populations civiles souvent prises pour cible dans les violences en Centrafrique. Pour ce faire, elle demande un renforcement de la MINUSCA qui compte quelques 10 000 casques bleus. Le 6 novembre, 28 organisations de la société civile avaient déjà lancé un appel pour plus de troupes pour la MINUSCA. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, avait aussi demandé une augmentation de 900 casques bleus supplémentaires après une visite en Centrafrique le mois dernier. Le renouvellement du mandat de la MINUSCA doit être examiné demain mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Selon le projet de résolution introduit par la France, la MINUSCA serait autorisée à déployer sur le terrain jusqu'à 11 650 personnes, dont plus de 2 000 policiers et près de 500 observateurs militaires.
Lors d'une conférence de presse à Lomé, l'opposition togolaise a qualifié de déclaration de guerre les propos du président Fornia Singbe, accusant ses opposants d'être responsables des violences. L'opposition togolaise réclame une enquête internationale sur les crimes qui se produisent au Togo. Le président Fornia Singbe avait affirmé vendredi que l'opposition était responsable des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont fait au moins 16 morts en 2 mois. Et demi. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a vivement dénoncé la détérioration des conditions de détention des migrants en Libye. Il a qualifié d'inhumaine la coopération de l'Union européenne avec ce pays. Eki Abadou.
La souffrance des migrants détenus en Libye est un outrage à la conscience de l'humanité, selon M. al-Hussein, pour décrire la situation alarmante et catastrophique. Son appel intervient alors que le groupe de contact sur la route migratoire en Méditerranée centrale, réunissant 13 pays européens et africains, dont la Libye, a décidé lundi d'améliorer les conditions des migrants dans les centres de détention en Libye. Ces centres sont des hangars où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, émaciés et traumatisés, sont entassés les uns sur les autres. Dans son communiqué, le haut-commissaire dénonce l'aide fournie par l'Union européenne et l'Italie aux gardes-côtes libyens pour barrer la route aux flux de migrants.
L'Union européenne exhorte le Libéria à parvenir à un règlement rapide de la contestation des résultats du premier tour de la présidentielle le 10 octobre. Le second tour prévu le 7 novembre entre George Weah et Joseph Boakai a été reporté sur décision de la Cour suprême qui a enjoint à la commission électorale d'examiner un recours du candidat Charles Brumskin, arrivé troisième. Les employés de maisons tanzaniennes à Oman et aux Émirats arabes unis sont victimes d'abus et de travail forcé selon Human Rights Watch. Les travailleuses qui fuient des employeurs ou des agents qui les soumettent à des abus disent que la police ou leurs propres responsables d'ambassade les ont forcés à retourner chez leurs employeurs, soutient l'ONG dans un rapport. Une équipe archéologique russe a découvert une momie bien conservée datant de la période gréco-romaine à l'intérieur d'un cercueil en bois à Kalamcha, a indiqué le ministère égyptien des Antiquités. La mission russe est active depuis 7 ans dans cette zone qui abrite des monuments de la période islamique et copte ainsi que de la période gréco-romaine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les députés russes doivent voter mercredi une loi permettant à tout média international opérant en Russie d'être désigné comme agent de l'étranger. En riposte à l'enregistrement sous cette désignation de sa chaîne RT aux États-Unis, John Lyndon.
Le texte de loi ne comporte aucune liste des médias visés, mais il donne la possibilité au pouvoir exécutif de considérer comme agents de l'étranger les médias recevant des financements de l'étranger, a expliqué le vice-président de la Douma. Formellement, les députés amendent une loi datant de 2012 qui ne concernait que les ONG pour qu'elles puissent s'appliquer aux médias. Ce sera au ministère russe de la Justice de décider quels médias, américains ou d'autres pays, devront s'enregistrer en tant qu'agents de l'étranger. Ces amendements seront adoptés demain puis envoyés à la Chambre haute du Parlement avant leur validation par le président Vladimir Poutine. La nouvelle loi pourrait s'appliquer à Voice of America et Radio Free Europe, voire aux chaînes américaines CNN ou allemandes Deutsche Welle. La chaîne de télévision Russia Today, contrôlée par Moscou, a pour sa part annoncé hier s'être pliée aux exigences des États-Unis en s'enregistrant comme agent étranger.
Le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, s'est interrogé ce mardi au Congrès sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Il avait soutenu relativement tôt la candidature de M. Trump alors qu'il était sénateur de l'Alabama. Par ailleurs, il a assuré que la décision de nommer ou non un procureur spécial pour enquêter sur l'affaire des emails d'Hillary Clinton sera prise rapidement, sans influence politique, correctement et de manière appropriée. Des médias américains ont publié lundi une lettre selon laquelle des procureurs fédéraux sont en train d'examiner l'opportunité de nommer un procureur spécial pour se pencher sur l'utilisation par Hillary Clinton d'un serveur privé de messagerie électronique quand elle était secrétaire d'État. Le gouvernement iranien a promis une action énergique pour mettre fin aux difficultés éprouvées par les sinistrés du séisme dimanche dans la province de Kermanshah, dans l'ouest de l'Iran, alors qu'un élan de solidarité nationale se met en place. Le centre de la ville de Saripol et Zab, d'où sont originaires les trois quarts des 432 personnes tuées, était embouteillé ce mardi. De nombreux habitants de la province sont venus prêter secours aux sinistrés. L'ONU appelle l'Arabie Saoudite à lever le blocus au Yémen sans attendre un renforcement des contrôles de cargaison vers les ports, une condition demandée par Riyad. Le blocus décidé est survenu début novembre après un tir de missile venant du Yémen et intercepté près de Riyad. L'ONU a indiqué craindre la plus grande famine de ces dernières décennies si le blocus n'est pas rapidement levé. La première ministre britannique Theresa May entame une bataille parlementaire majeure avec la reprise des débats sur le projet de loi destiné à mettre fin à la suprématie du droit européen au Royaume-Uni dans le cadre du Brexit. Ce texte qui doit permettre au pays de continuer à fonctionner normalement lorsqu'il aura coupé le cordon avec l'Union européenne fin mars 2019 avait été approuvé par un premier vote au Parlement britannique en septembre. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a déclaré à Bruxelles attendre un retour du Premier ministre démissionnaire libanais Saad Hariri dans son pays dans les jours à venir, selon un communiqué publié après sa rencontre avec le ministre libanais des Affaires étrangères, Gebran Bassil. La démission de M. Hariri le 4 novembre depuis l'Arabie saoudite, d'où il a dénoncé la mainmise de l'Iran sur son pays, pose question quant à sa liberté de mouvement à Riyad, bien qu'il ait assuré rentrer très bientôt et être libre en Arabie saoudite. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Jacques Aristide.
En République démocratique du Congo, plusieurs communes de Kisangani ne sont toujours pas encore complètement desservies en eau potable. La panne d'eau et d'électricité qui frappe cette ville de moins 1 million d'habitants a été causée par l'inondation de la centrale électrique de Tchopo appartenant à la Société nationale d'électricité. D'après les dirigeants de cette entreprise publique, des groupes électrogènes ont été amenés pour alimenter certains points stratégiques. Des militants de la région ont toutefois menacé de descendre dans la rue pour protester contre les pénuries. L'heure est au bilan pour le programme de transformation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, un projet de la Banque mondiale qui a démarré il y a 9 ans dans 13 pays de la sous-région. Un atelier y est consacré cette semaine à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Pour le docteur Aboubakar Koné de la BM, ce programme a amélioré de 30% les revenus et la productivité des agriculteurs en Afrique de l'Ouest. Le docteur Koné a indiqué que son institution proposerait une nouvelle série de projets qui iront au-delà de l'amélioration de la productivité pour toucher la transformation de l'agriculture. Le Sénat nigérian a donné son feu vert au président Muhammadu Buhari pour faire appel aux bailleurs étrangers pour un prêt de 5,5 milliards de dollars. 2,5 milliards serviraient à combler une partie du déficit budgétaire de 2017 et 3 milliards pour refinancer la dette intérieure.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
En Afrique, les derniers matchs sans enjeu ce mardi.
Eh oui, le Sénégal, après la qualification acquise vendredi 2-0 à Polo Kouané, qui retrouve l'Afrique du Sud à Dakar. Sadio Mané, l'homme providentiel, tout juste revenu de blessure, est déjà rentré en Angleterre pour rejoindre son club de Liverpool. Côté burkinabé à Ouagadougou, les étalons voudront terminer sur une belle note face au coriace requin bleu du Cap-Vert.
Ciao, l'Italie n'ira pas à la Coupe du Monde 2018.
Battue à Stockholm, 1-0, la squadra azzurra se devait de battre les Suédois au stade Giuseppe Meazza à Milan. Eh bien, ils en ont été incapables, le score final 0-0, coup de tonnerre depuis 1958. L'Italie avait été de toutes les Coupes du Monde, une élimination qui fait mal. Et le gardien Gianluigi Buffon, du haut de ses 40 ans, qui rêvait sans doute d'une meilleure sortie puisque évidemment c'était son dernier match avec la sélection italienne. Élimination donc des Italiens qui ne verront pas la Russie l'été prochain.
Série de matchs amicaux sur la planète football ce mardi.
La Colombie a écrasé la Chine 4-0 ce matin à Chongqing. La Corée du Sud et la Serbie, toutes deux qualifiées pour le mondial, ont fait match nul, 1-0 à Séoul. Les autres rencontres de ce mardi, le Gabon contre le Botswana, le Nigeria face à l'Argentine en Russie, l'Algérie affronte la Centrafrique, l'Allemagne contre la France, le Portugal face aux États-Unis et le Brésil qui se déplace en Angleterre.
On termine par la NBA, championnat de basket nord-américain.
Et oui, Cleveland a remonté un retard de 24 points pour finalement s'imposer à New York 104-101, alors que Golden State a vécu une soirée plus maîtrisée à domicile, victoire contre Orlando 110-100.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. La tension monte au Zimbabwe. Un convoi de plusieurs chars était visible en banlieue d'Harare ce matin. Ce mouvement intervient au lendemain d'une mise en garde du chef de l'armée à l'encontre du président Robert Mugabe. Pour une analyse, Morgane Guiriec a joint Achille Membe, professeur de sciences politiques à l'université de Witwatersrand à Johannesburg.
Le parti au pouvoir est extrêmement divisé. Il en est de même de l'armée. M. Mnangagwa a été associé à la gestion du pouvoir depuis 1981 et dont son limogeage devait nécessairement impliquer une intensification des luttes en prévision de la mort prochaine du dictateur zimbabwéen.
Vous dites que l'armée est-elle aussi divisée? Est-ce qu'elle a les moyens d'agir contre le président?
Eh bien, tout dépend du rapport de force entre ceux qui, dans l'armée, estiment que les divisions actuelles mettent en danger leur assise au pouvoir. Si l'armée décide à un moment donné que ces dangers sont devenus extrêmes, je crois qu'elle risque d'intervenir. Le problème, c'est de savoir si elle est elle-même unie ou si une partie de l'armée est toujours alignée sur les positions de M. Mugabe.
Et quelles sont les relations entre Emmerson Mnangagwa et l'armée?
M. Mnangagwa a été associé à la gestion du pouvoir pendant très longtemps. Il n'aurait pas pu en être un des acteurs principaux s'il n'avait pas d'appui au sein de l'armée. Il est également certain que beaucoup ne voient pas d'un bon œil l'arrivée au pouvoir de Mme Mugabe qui suscite énormément d'opposition, une opposition tout à fait viscérale auprès des acteurs politiques qui ont fait l'objet d'une purge au cours des 10 dernières années.
Quelles sont ses chances à Grace Mugabe?
50-50. Elle est parvenue à recruter autour d'elle un groupe de quadragénaires cinquantenaires dont certains ont été associés eux aussi à la gestion de l'État depuis très longtemps. Mais en même temps, les purges successives au sein du parti ont considérablement affaibli celui-ci. M. Mugabe, vieillissant, presque grabataire, s'est fait énormément d'ennemis et est entouré maintenant de vautours prêts à l'assaut.
C'était Achille Membe, professeur de sciences politiques à l'université de Witwatersrand à Johannesburg.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum se met à l'heure du football. Ce jeudi, tous les qualifiés africains pour la Coupe du Monde 2018 en Russie sont désormais connus. Sénégal, Nigeria, Égypte, Maroc et Tunisie. Quelles seront leurs chances? Qui peut créer la surprise? Comment combler les lacunes notées du côté africain lors des derniers mondiaux ou autres compétitions internationales? Telle que le non-paiement des primes et le manque d'organisation des fédérations africaines. Que s'est-il passé pour ces élites du foot africain comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana? Et pourquoi y a-t-il si peu d'entraîneurs africains? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit demain pour discuter d'un renouvellement du mandat de la mission onusienne en Centrafrique, la MINUSCA, qui fait face à des critiques et des accusations, notamment de viol. Claire Morin-Gibourg a joint à Bangui Ingrid Boki, coordonnatrice de l'ONG Conseil norvégien des réfugiés.
Pour nous, c'est que nous avons pu constater dans les 6 derniers mois une résurgence de la violence avec des attaques assez brutales, incluant des viols et des tortures contre les civils. Donc nous, ce que nous souhaiterions, c'est que la communauté internationale prenne ceci très au sérieux et adapte les capacités de la MINUSCA en fonction de la situation actuelle qui est très difficile en ce moment.
Que faudrait-il faire pour que la MINUSCA soit plus efficace?
Pour nous, à l'heure actuelle, il faudrait en fait que les Nations Unies puissent renforcer les capacités, notamment humaines, de la MINUSCA, qui pour l'instant sont totalement insuffisantes, car vu l'étendue des conflits qui s'étendent de jour en jour sur de nouvelles zones, la MINUSCA à l'heure actuelle n'est pas vraiment capable de pouvoir répondre à toutes les crises qui arrivent. Donc nous demandons à ce que à peu près que la 900 nouvelles recrues soient dans la MINUSCA afin de pouvoir vraiment augmenter l'effectif et stabiliser le pays, éviter l'émergence de nouvelles zones de tension en dehors de celles qui sont déjà en tension à ce moment-là.
Qu'en est-il des accusations de viol contre certains membres des casques bleus?
Oui, c'est sûr que c'est un problème qui est pris très au sérieux. Là, on a confiance en les Nations Unies pour prendre en charge ce problème. Il a été démontré qu'ils récemment ils ont pris des sanctions contre ce type d'abus qui sont vraiment pris très au sérieux. Mais ces cas sont une certaine minorité, qui bien sûr doit y avoir zéro tolérance. Mais l'ensemble de la MINUSCA, hormis ces éléments, pourrait vraiment aider à la stabilisation du pays.
Qu'est-ce qui est le plus inquiétant pour vous?
Il faudrait pouvoir stabiliser les zones qui sont à l'heure actuelle au froid des conflits entre les groupes armés, car les civils sont pris au milieu, et souvent ils doivent partir en laissant tout derrière eux. Pour certains, ce n'est pas la première fois qu'ils sont déplacés. Il y a des familles qui sont séparées à cause de ces déplacements, donc il faudrait vraiment que dans les zones qui sont actuellement en conflit, que la MINUSCA puisse aider à arrêter un peu les violences entre les différents groupes armés afin que les populations civiles puissent en tout cas avoir accès à de l'aide humanitaire.
C'était Ingrid Boki, coordonnatrice de l'ONG, le Conseil norvégien des réfugiés.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En Côte d'Ivoire, l'annonce par l'administration Trump de vouloir mettre fin à la loterie de la carte verte est mal perçue auprès des jeunes qui rêvent de s'installer en Amérique. Cette loterie permet chaque année à 50 000 étrangers de venir s'installer aux États-Unis et d'y travailler. Voici un reportage de notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Chaque jour, ils sont une centaine de postulants à la Green Card à prendre d'assaut les locaux de Immigrus, une entreprise créée en 2004 et qui essaie d'encadrer tous ceux qui rêvent d'obtenir le précieux sésame, la carte verte ou la Green Card qui leur permettra d'immigrer légalement aux États-Unis. Dafé Karamoko est technicien en bâtiment.
J'ai postulé à la Green Card parce que je considère que peut-être là-bas, aux États-Unis, on aura une opportunité un peu plus grande de pouvoir réussir dans les affaires. Surtout, comme le dit toujours tout le monde, le rêve américain. On a tous le rêve américain en tête. On pense qu'on a plus d'opportunités là-bas. Voilà pourquoi j'ai postulé.
Dafé Karamoko espère que Donald Trump ne réussira pas à faire supprimer la Green Card.
Les lois discriminatoires ne passeront pas aux États-Unis, donc on pense qu'on peut réussir là-bas. Parce que la Green Card apporte énormément à l'économie américaine. Le plus souvent, ceux qui y vont apportent une plus-value à l'économie américaine. Donc je pense qu'il ne pourra pas, supprimer cette Green Card.
Autre postulant, Dosso Ilias, étudiant en informatique et âgé de 24 ans. Lui aussi caresse l'espoir de se retrouver aux États-Unis par le biais de la Green Card.
Moi, je vais aller là-bas parce qu'il y a plusieurs opportunités pour la jeunesse. C'est-à-dire, comme moi, je suis dans le domaine informatique, On voit que là-bas, tu peux vraiment pousser tes connaissances dans différentes universités.
Alors, le président américain a annoncé son intention de suspendre la green card.
Donc, c'est une décision qui n'a pas été trop réfléchie. Peut-être il a dit simplement pour le buzz, quoi.
Sabo Adama espère lui aussi que la green card va se poursuivre.
C'est un pays qui présente beaucoup d'opportunités à la jeunesse. Et je pense qu'arriver aux États-Unis serait bien. C'est un pays de rêve. Et c'est mon pays de rêve. Raison pour laquelle, depuis 17 ans, j'ai joué la green card pour pouvoir aller aux États-Unis.
Alors, le président américain a récemment annoncé qu'il allait se prononcer pour la suspension de la green card. Vous l'avez appris, hein?
Oui, j'ai appris. Ça m'a semblé un peu bizarre. Ça ne m'a pas plu, mais je pense que ça ne va pas s'arrêter là.
Akayani, qui est le responsable des Immigrus, l'une des entreprises qui encadre les jeunes Ivoiriens qui veulent obtenir la green card. Il tente de les rassurer après la sortie de Donald Trump.
Certains clients étaient dans le désarroi, nous ont même appelé pour savoir est-ce que cette année encore, ils pourront bénéficier de la green card. On leur a dit de se tranquilliser. Le président a pris la décision, mais ça doit passer au Congrès et ensuite le Sénat. Pour ceux qui s'inscrivent cette année, c'est sûr qu'ils pourront avoir leurs résultats dans le mois de mai.
Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Et Kabadou avec vous dans votre émission interactive, à votre avis, ce soir à 18h en temps universel. C'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Est-ce facile de monter un business en Afrique? Faut-il suivre une formation particulière pour monter sa petite affaire? Ouvrir une boutique, fabriquer des chaussures, vendre des beignets ou cultiver du riz? L'entrepreneuriat est-il une solution pour vivre selon vous? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur www.voafrique.com.
Dans la capitale ougandaise, Kampala, comme dans grand nombre de métropoles de la planète, certains habitants se réveillent tandis que d'autres, ayant fini leur journée de travail, s'endorment. Et dans certains quartiers, on ne dort pas du tout, car il y a là moyen de se faire de l'argent et c'est un style de vie apprécié par certains. Un de nos correspondants s'est rendu en Ouganda. Le reportage ici est signé Mugume Davis Rwankaringi et il est présenté par Gabi Dorsil.
Bienvenue à Kampala, une ville qui ne dort jamais et où le moyen de transport le plus facile est la moto, connue localement sous le nom de Boda Boda. Judas Saint-Amon pilote l'un de ses motos taxi et il nous dit qu'il gagne plus d'argent la nuit que durant la journée.
Les gens qui se déplacent pendant la journée épargnent beaucoup, donc ils ne paient pas beaucoup pour les Boda Boda. Ceux qui viennent la nuit sont là pour le plaisir. Ils viennent pour dépenser. Si tu leur dis combien tu veux, par exemple, d'ici jusqu'à quelque part, ils payent parce qu'ils sont venus pour dépenser.
Dans la banlieue de Makindye, nous rencontrons Tasha, une jeune femme de 26 ans qui aime faire la fête toute la nuit avec ses amis.
La bonne musique me fait plaisir et j'espère que tout le monde aime la bonne musique. Nous allons là où il y a de la bonne musique comme Autospa.
Ce n'est pas du tout facile parce que beaucoup d'entrepreneurs dépendent des fêtards comme Tasha. Il y a donc de la concurrence. Ali Matovu se montre satisfait.
Ce travail nous aide, moi et ma famille, mon père, ma mère et mes enfants. Je fais quelques boulots chez le boucher pendant la journée à Kalerwe et la nuit je viens travailler ici.
L'un des quartiers les plus animés de Kampala la nuit est Wandegeya. Ici, vous trouverez une variété d'entreprises qui vendent des chaussures, des vêtements, de la nourriture et du café. Écoutons Altaf Charania.
This is a busy place here.
Wandegeya est un endroit très animé. Nous avons beaucoup de choses que les gens aiment ici la nuit. Ils viennent se détendre ici après le travail. Les affaires sont lentes dans la journée parce que les gens sont au travail. Dans ce café, la plupart des gens viennent la nuit.
Ce n'est pas toujours la joie ou l'occasion de faire de l'argent quand la nuit tombe à Kampala. Parfois, des voleurs à main armée s'invitent au programme. Dans cette ville, quand certains quartiers s'endorment, d'autres se réveillent. Et c'est le début d'une vie nocturne très animée, génératrice de revenus, mais aussi parfois dangereuse.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Nathalie Barge, à la production Michel Joseph. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée en compagnie de Henri Francisque pour les nouvelles du jour. À très bientôt. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.